السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیس فروری کا دن جماعت نے پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے.
Le 20 février est commémoré sous le nom de la journée du Muslim Maoud au sein de la Jamaat Ahmadiyya. J'évoquerai ce thème aujourd'hui, étant donné que nous serons le 20 février demain. Il s'agit d'une très longue prophétie qui évoque les différentes qualités de ce fils promis au Messie premier d'Islam. Dans cette prophétie, Allah a fait part au Messie premier d'Islam des qualités que posséderont ce fils promis. Or, le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai qu'un aspect unique de ces prophéties, notamment que ce fils promis sera pétri de connaissances séculières et religieuses. Et je vais évoquer ce sujet en mentionnant les écrits et les discours du Muslim Maoud radhiyallahu anhu. Grâce à cela, on aura jusqu'à un certain point un aperçu de cet aspect de la prophétie. En dépit du fait que le Muslim Maoud n'avait fait que des études élémentaires très limitées du cycle primaire, Allah lui a accordé un savoir grandiose des choses concernant ce monde et concernant la spiritualité. C'est une connaissance qu'il a partagée en de nombreuses occasions. Cette somme de savoir est si immense qu'il sera impossible de les couvrir, voire de les introduire lors d'un seul sermon. Une introduction à ce savoir exigera en soi toute une série de sermons. Il est impossible pour moi de tout présenter, mais je me suis dit que je présenterai une brève introduction de certains thèmes qu'il a traités en guise d'introduction ou en guise d'aperçu, où j'évoquerai certains points en résumé. Ce faisant, l'on aura un échantillon du savoir profond et de la sagesse du Muslim Maoud radhiyallahu anhu. Ces articles, ces discours et ces écrits couvrent les sujets de l'unicité de Dieu, de la réalité des anges, du statut des prophètes, du statut du saint prophète Mohammed, peace be upon lui, le sceau des prophètes. Ce sont aussi des discours qui couvrent d'autres questions d'ordre spirituel, Il évoque aussi la direction religieuse et politique des musulmans, le système économique et financier de l'islam, l'histoire de l'islam, ainsi que des problèmes de son époque. Certains de ces problèmes sont d'ailleurs toujours d'actualité et les opinions qu'il avait émises à ce sujet offrent aujourd'hui encore des solutions à ces problèmes contemporains. Tous ces discours et écrits couvrent une multitude de sujets. Comme je l'ai dit, il serait impossible d'en faire l'introduction même dans un seul sermon. C'est pour cette raison que je ne présenterai que certaines introductions et je vais prendre des discours et des écrits qui datent d'ailleurs du début de sa jeunesse. Il s'agit des écrits et des dires d'un jeune de 16 ou 17 ans qui n'a pas suivi d'études formelles d'ordre séculier ou même religieux. Mais il présente des points qui nous laissent bouche bée. À l'âge de 17 ans, il a prononcé un discours sur le thème de l'unicité de Dieu. Un discours si profond que le premier calife en a fait l'éloge, affirmant que le musulman Maoud a présenté de tout nouveaux points. En tout cas, je vous présente un aperçu du trésor de connaissances qu'il nous a offert entre l'âge de 17 ans et l'âge de 34 ou 35 ans. Je ne pourrais même pas présenter 50% de tout ce qu'il a produit lors de cette période. Peut-être que je ne pourrais présenter que moins de 50% de ses écrits. Par la suite, il a vécu une longue période et il n'a cessé de distribuer ses perles de savoir et de connaissances. En mars 1907, alors qu'il n'avait que 17 ans, le Musleh Maoud a écrit un article sublime sous le titre « L'amour de Dieu ». Par la suite, ce discours a été publié dans la forme d'un livre. Grâce à cet article, l'on comprend comment, à un jeune âge, Dieu lui a accordé cette connaissance séculière et religieuse. Il déclare « Dieu a créé l'homme pour l'amour ». L'objectif de sa création est que l'homme baigne dans l'amour de Dieu et que l'homme ne cesse de plonger dans cet océan accordant la vie éternelle. Quelle est cette vie éternelle? C'est la vie dans l'au-delà. C'est grâce à l'amour, dit-il, que l'homme se protège des péchés et qu'il progresse en rang. C'est grâce à l'amour qu'il reconnaît Dieu. Sans l'amour, l'homme ne pourra pas connaître la réalité de la personne de Dieu. Il déclare, il est ainsi essentiel de grandir dans sa relation avec Dieu pour se protéger des péchés et pour progresser en rang. Et il est essentiel de créer dans nos cœurs la sincérité et l'amour qui va nous rapprocher de Dieu, faisant de nous un soleil qui va éclairer le monde. Par la suite, il a mentionné différentes religions et il a déclaré que Dieu est unique, mais les concepts de Dieu dans chaque religion est différent. À cet égard, il a présenté les croyances des Juifs, des Chrétiens, des Hindous et des Aryas au sujet de Dieu. Et il a prouvé que pareil Dieu présentant de tels enseignements et de tels attributs ne peut pas être digne d'un culte humain. En présentant les enseignements islamiques, il a prouvé que le Dieu de l'islam est l'incarnation de toutes les vertus et de toutes les beautés, et c'est lui qui mérite d'être aimé et d'être adoré par l'homme. Comme je l'ai dit, il est clair que Dieu est le même pour tous, mais par opposition à ce que proposent les autres religions, le concept de Dieu présenté par l'islam est réel. Et c'est ce concept qui est à même d'engendrer l'amour de Dieu dans nos cœurs. En évoquant les attributs de Dieu, le musulman Maoud a prouvé qu'aucune autre religion n'a présenté autant d'attributs et qu'aucune autre religion ne partage les attributs de l'islam en termes de vertu et de perfection. En fin de compte, il a présenté la preuve du Dieu vivant de l'islam. Il est le seul à guider l'homme à travers la révélation et l'inspiration, même aujourd'hui comme il le faisait dans le passé. Et ceci est le plus grand attribut du Dieu vivant. Ensuite, il écrit à la fin que je suis arrivé à la fin de mon article parce que j'ai prouvé que les dieux des autres religions ne sont pas dignes d'être aimés. Leurs préceptes comportent des lacunes et l'homme ne peut pas les mettre en œuvre. Ensuite, le musulman décrit que les enseignements de l'islam sont conformes à la nature humaine et Dieu est tout-puissant et Dieu est exempt de tout défaut. Et la plus grande caractéristique de l'islam est que celui qui aime Dieu selon l'islam n'obtient pas une réponse claire, mais Dieu lui parle après l'avoir éprouvé. Ceci est un point à saisir, c'est-à-dire Allah ne donne pas de réponse claire, mais Allah lui parle après l'avoir éprouvé. Il faut passer par cette épreuve. La chaleur de cet amour brûle tout dans le cœur de l'amant. Et ses paroles apaisantes lui accordent sérénité et enlèvent toute affliction et tout tourment qui découle du manque de réponse. Et c'est ainsi que l'amour brille davantage. Et une passion surgit dans son cœur, lui poussant à dire que je devrais me rapprocher davantage de Dieu. Et de cette façon, il se rapproche de Dieu au point où Dieu déclare « Anta minni wa ana minka », c'est-à-dire « Tu es de moi et moi je suis de toi ». Cela signifie que mon nom est connu dans le monde grâce à toi et tu es honoré à cause de moi. En fait, ceux qui se plongent dans le fleuve de son amour montrent la gloire du nom de Dieu au monde et ils sont honorés uniquement parce qu'ils aiment Dieu. Le musulman Maoud ajoute, plus je réfléchis sur les mots « l'amour divin », plus je me délecte et je m'extasie face à la beauté de la religion de l'islam. L'islam qui nous a guidés vers cette bénédiction qui illumine nos cœurs et nos esprits. Les préceptes de l'islam servent de baume pour nos cœurs meurtris. Et sans l'islam, les chercheurs de vérité seraient morts. Et ceux qui ont le goût de l'amour dans leur cœur auraient eu l'échine brisée et l'amour divin aurait été considéré comme une cause impossible. Voire, il serait qu'un mirage, car quand les gens constatent que personne n'est digne de notre amour, eh bien, ils douteront certainement de l'existence même de l'amour. Dieu a offert à l'homme une religion à l'instar de l'islam pour apaiser les cœurs tristes et pour guérir les cœurs meurtris. Quand un homme qui aime Dieu constate que celui qu'il aime voit chaque particule de son être et qu'il connaît les paroles de son cœur, qu'il entend et qu'il parle, et qu'il est capable de récompenser celui qu'il aime, eh bien, l'amant se réjouit en raison de cet amour et il ressent un délice spécial. Autrement dit, l'homme atteint le bonheur et il ressent un plaisir particulier. Hazrat Musleh Maud Aradutanhu a prononcé un discours très éloquent le 28 décembre 1908 lors de la Jalsa Salana. Le thème de ce discours est « Comment pouvons-nous réussir ?» Ce sont là les pensées d'un jeune de 19 ans. Au début de son sermon, le Musleh Maud a cité les versets 111 et 112 de la sourate At-Tawbah. Versets qui disent « Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah » et ces versets se terminent par « Wa bashiril mu'minin » C'était donc les versets 111 et 112 de la sourate At-Tawbah. Ensuite, il a déclaré « Tout individu doit réfléchir sur la raison pour laquelle Dieu l'a créé. » Étant donné que tout être humain doit mourir tôt ou tard, il est important de connaître ce qui arrivera après la mort. Si l'on fait tant d'efforts pour cette vie éphémère et que l'on fait des plans à cet égard, ne doit-on pas faire des efforts pour cette vie infinie, c'est-à-dire pour la vie du monde à venir qui est infinie? Est-ce qu'on ne doit pas se préparer pour cette vie éternelle? C'est là une question très importante. À la lumière des enseignements du Saint-Coran, il explique que lorsqu'on s'apprête à faire la moindre transaction, on est très prudent et on achète toujours ce qui est utile et rentable. Quel dommage pour celui qui ne fait pas un commerce offrant un profit illimité, non pas des millions ou des centaines de millions. Par conséquent, à la lumière des enseignements du Saint-Coran, il déclare « L'homme devrait accumuler pour sa personne cette richesse qui lui sera utile, et non pas cette richesse que ses héritiers dilapideront après son départ de ce monde. Ses héritiers peuvent détruire ses biens ici-bas, mais s'il fait ce commerce que préconise le Saint-Coran, il en bénéficiera, et personne ne pourra le détruire par la suite. » Au contraire, ses richesses vont lui appartenir après la mort et lui seront utiles. Il déclare, Dieu lui-même devient le trésorier de pareils commerçants. Celui qui a Dieu comme trésorier, de quoi a-t-il besoin? Ceux qui négocient ainsi avec Dieu et qui se joignent à ses armées doivent être courageux et doivent se livrer à Dieu, non pas en parole, mais par des actes. Hazrat Muslim Maud a mentionné les succès et les victoires de pareils commerçants, à l'instar du Saint-Prophète Mohammed, lui et de Moïse, alayhissalam, et comment Dieu leur a accordé la victoire sur l'ennemi. Certaines conditions sont à respecter pour accomplir ce commerce. Le premier est que l'homme doit toujours demander pardon pour ses péchés. Ce faisant, il va enlever la rouille de son cœur. Deuxièmement, il doit se concentrer sur l'adoration de Dieu afin de renforcer sa relation avec Dieu. Troisièmement, il doit continuer à louer Dieu et à se souvenir des bénédictions de Dieu. Quatrièmement, il doit accomplir de bonnes œuvres. Cinquièmement, il doit protéger les limites prescrites par Dieu. Dieu a prescrit certaines limites et il faudra les respecter. Un croyant sincère qui applique ses conseils va réussir et il va recevoir de bonnes nouvelles de la part de Dieu. Le croyant sincère qui applique ses conseils va réussir et il va recevoir de bonnes nouvelles de la part d'Allah. Ensuite, lors de la Jalsa Salana de 1916, lors de la deuxième année de son califat, Hazrat Muslim Maud a prononcé un discours sur le souvenir d'Allah. Dans ce discours, il a évoqué le souvenir d'Allah ou le zikr d'une manière très belle et très agréable, et les questions qui s'y rapportent. Il explique le sens du zikr, son importance, ses catégories et ses avantages. Dans le même discours, il a également décrit la nature du zikr des soufis contemporains. Il explique que leur style de zikr et leur rituel les éloignent de Dieu. Il a expliqué qu'il existe quatre types de zikr. Le premier type de zikr est la salah. Le deuxième est la récitation du Saint-Coran. Le troisième est l'affirmation des attributs de Dieu, la répétition des attributs de Dieu et leur description dans sa propre langue. Quatrièmement, il s'agit de l'évocation des attributs de Dieu dans la solitude et en compagnie d'autrui. Dans le même ordre d'idées, afin de rendre populaire le zikr, il a également indiqué les moyens et les moments spéciaux pour se souvenir de Dieu. Dans le même discours, il a également souligné l'importance de la prière tahajjud, ce zikr par excellence qui mène à la maqam et mahmoud. Et il a expliqué plus d'une douzaine de façons afin de pouvoir l'accomplir. Il a présenté des méthodes afin de pouvoir accomplir la prière de Tahajjud régulièrement. Et à la lumière du Saint-Coran et des hadiths, il a présenté 22 moyens pour pouvoir se concentrer lors de la Salah. Ensuite, il a mentionné 12 grands avantages du zikr. Il y a un point intéressant qui mérite mention à cet égard. Lors du discours, un soufi, Nour Ahmadi, qui était dans l'audience, a envoyé une note au Muslim Maoud pour lui demander ce qu'il est en train de faire. Ce soufi a expliqué que les soufis avaient l'habitude de nous dire un seul de ces points, et ce, après que nous les ayons servis pendant 10 ans. Les maîtres soufis mentionnaient un seul de ces points à ceux qui étaient à leur service pendant 10 ans. Et il a dit au Muslim Maoud que « Vous avez dévoilé tous ces secrets dans une seule réunion. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ?» La raboubia de Dieu englobe tout dans l'univers. Le Muslim Maoud a prononcé un discours à ce propos à Patiala. En voici l'introduction et le résumé. Il a prononcé ce discours à Patiala le 9 octobre 1917. Et il a prouvé l'existence de Dieu, la véracité de l'islam et l'authenticité du Saint-Coran, ainsi que la véracité du Messie promis l'islam grâce à la tribu de Rab. Le Muslim Maoud explique que les attributs d'Allah sont la preuve de son existence. En méditant sur les attributs d'Allah et en observant les pouvoirs surnaturels qui se manifestent toujours, l'on est contraint d'accepter qu'il existe un être grand, omniscient et miséricordieux. Il explique la sourate Al-Fatiha, qui est la mère du Coran, décrit ces 4 attributs, qui sont le résumé de tous les attributs. En méditant sur ces attributs, l'on pourra éviter toutes sortes de mécréances et de méfaits. Le premier attribut est Rabbul Alamin. Cet attribut concerne en fait toutes les créatures de Dieu. Toute création, toute créature bénéficie de sa Raboubia. Le fait que Dieu soit le Seigneur des mondes ou le Rab nous pousse à tirer la conclusion suivante, à savoir Dieu qui a créé ces moyens si grandioses pour l'épanouissement du corps, a certainement créé des moyens pour l'épanouissement de l'âme, l'âme qui est d'ailleurs plus chère que le corps charnel. Et à cet égard, Allah déclare « Wa immin ummatin illa khala fiha nadhir », c'est-à-dire qu'Allah a envoyé des prophètes dans chaque peuple pour leur formation et pour leur développement spirituel. À la fin, Allah a suscité le saint prophète Mohammed Bissa soit lui, pour réformer toutes les nations de toutes les époques. Étant donné que la charia a été parachevée par son entremise, le saint prophète Mohammed Bissa soit lui a déclaré que, après moi, des serviteurs d'Allah ayant eu le privilège de communiquer avec Dieu vous informeront à propos des exigences de cette charia. Et ils vous mettront en lien avec Dieu. Ainsi, en accord à l'attribut de Rab, Allah a suscité Musa Sahib, le Messie promis, à cette époque, lui qui s'est dit être en harmonie avec Dieu et qui a été envoyé pour la réforme de l'humanité. Le soutien de Dieu s'est manifesté dans l'accomplissement de ses prophéties et les signes vivants ont prouvé la véracité de ses déclarations. À la fin, le Muslim Maoud a déclaré « L'islam est la seule religion qui présente le Dieu vivant et qui contient des preuves de vie. » Il explique que Dieu ne cesse de combler le besoin spirituel de l'homme, tout comme il le faisait dans le passé. En suivant la méthode qu'il préconise, nous pouvons aujourd'hui encore récolter les mêmes récompenses et les avantages qu'on a récoltés des milliers d'années de cela. Ensuite, en 1919, il a donné une conférence sur la genèse des conflits en islam lors d'une réunion de la Martin Historical Society de la Islamia College de Lahore. Ce discours fait environ 100 pages.
कि 26 फरवरी 1919 को इस्लामिया गाजी लाहौर की मॉडर्न हिस्टोरिकल सोसाइटी.
Le 26 février 1919 s'est tenue une réunion extraordinaire de la Martin Historical Society de la Islamia College à Lahore, sous la présidence de Sayyid Abdul Qadir Saheb, professeur d'histoire. Ce dernier était un grand professeur d'histoire à l'époque. Il n'était pas Ahmadi. Cette conférence s'est tenue sous sa présidence. Expliquant l'importance de ce sujet, Hazrat Musleh Maud a déclaré : les germes de la dissension en islam avaient été semés 15 ans après le décès du saint prophète Mohammed Bissos à lui. Après cette période, les fissures du schisme entre les musulmans ont continué à s'élargir. L'histoire de cette époque est dissimulée sous de lourds voiles obscurs. Et selon les adversaires de l'islam, cette période est une tache hideuse sur l'islam. Et pour les partisans de l'islam, cette période est une question embarrassante. Seule une poignée a réussi à sortir saine et sauve de ce bourbier de l'histoire de l'époque. C'est pour cette raison que j'ai décidé de traiter de ce sujet pertinent. Le discours du Musleh Maud contenait des conseils et des recherches très précieux. L'essentiel étant qu'il est tout à fait faux de croire que les grands compagnons étaient la cause de ces tribulations. Le Musleh Maud a décrit les conditions du califat d'Othman, son statut, son rang aux yeux du saint prophète Mohammed Bissos à lui et les raisons de ses troubles. Il a aussi expliqué que le califat islamique était un système religieux et qu'il n'y a aucune raison de se méfier des compagnons du saint prophète Mohammed Bissos à lui. À la lumière de ces points, il a expliqué les causes de ces troubles et les raisons pour lesquelles ils ont débuté à l'époque d'Othman. Hazrat Musleh Maud a aussi commenté sur Abdullah bin Sabah, l'initiateur de ces troubles, la situation et l'humeur générale des musulmans de Koufa, de Bassora, de la Syrie et des musulmans de l'époque. On objecte également qu'Othman avait nommé des émirs qui étaient à l'origine de ces troubles. En présentant son opinion à ce sujet, Hazrat Musleh Maud a déclaré que les personnes qui furent envoyées pour mener cette enquête étaient des personnes admirables et neutres. Personne ne pouvait soulever une objection contre les résultats de leur enquête. Ces trois compagnons qui ont été envoyés pour mener des enquêtes avaient été envoyés donc dans ces différentes contrées et ils s'accordaient tous à dire qu'il régnait la paix et la sécurité dans le pays et qu'il n'y avait aucun signe d'injustice et de tyrannie. Et que les gouverneurs se conduisaient avec une équité et une justice absolue. Il était évident que tout ce désordre était le résultat de la conspiration d'une poignée de transgresseurs sous l'instigation d'Abdullah bin Sabah. Osman et ses représentants et ses gouverneurs étaient quant à eux exempts de tout reproche. Osman, selon sa nature, était enclin à la bienveillance et la compassion. Suite aux troubles causés par les rebelles, il a cessé de dire qu'il ne voulait pas avoir les sangs des musulmans sur les mains. Les grands compagnons et Mouawiya ont fait quelques suggestions pour préserver la paix, mais Othman, quant à lui, insistait à faire montre d'indulgence. Voire, il avait même accepté les requêtes de ses critiques dans une certaine mesure afin de les faire taire. Hazrat Musleh Maud explique un point important et essentiel pour comprendre les contradictions dans les récits et les conditions historiques. Il déclare que beaucoup de prudence est requise en ce qui concerne l'histoire de cette époque, car aucune période postérieure à celle-ci n'a été vide de gens qui avaient de la sympathie pour une partie ou pour l'autre. Et ce fait se révèle être très nuisible à l'histoire parce que lorsqu'une narration est empreinte de haine viscérale ou d'amour excessif, elle ne peut jamais être transmise dans sa forme véritable. Un principe d'or pour vérifier la réalité de l'histoire est que les événements du monde sont comme une chaîne. Afin de vérifier la validité d'un événement isolé, il faudra l'insérer dans la chaîne et examiner si ce maillon est à sa place ou pas. Le résumé des recherches du Muslim Rule est ceci. Othman Radutranhu et les autres compagnons étaient exemptes de toute forme de malveillance et de péché. En fait, leur comportement était l'expression d'une moralité exemplaire et ils étaient sur un piédestal de vertu. Il ressort clairement de ces événements que les compagnons n'avaient aucune objection contre le califat de Othman. Jusqu'à la fin, ils étaient loyaux envers Othman. Les allégations contre Ali, Talha et Zubair, les accusant de conspirer secrètement, étaient absolument fausses. Les allégations soulevées contre les Ansar et le fait qu'ils étaient mécontents de Othman étaient fausses aussi, parce que tous les chefs des Ansar s'efforçaient à mettre fin à ce conflit. Des non-Ahmadi ont également commenté sur ce discours. Lors de la première publication de ce discours, Said Abdul Qadir Saheb, professeur d'histoire de la Islamia College, a fait une préface dans laquelle il a écrit « Illustre fils d'un illustre père, le nom Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad offre de bonnes garanties que ce discours est très savant. J'ai quelques connaissances de l'histoire de l'islam et je peux affirmer qu'il y a très peu d'historiens, musulmans et non musulmans, qui ont saisi les tenants et les aboutissants des dissensions de l'époque d'Othman et qui ont réussi à comprendre les véritables causes de cette première guerre civile. Hazrat Mirza Saheb a non seulement réussi à comprendre les causes de cette guerre civile, mais il a également expliqué de manière très claire et continue les événements pour lesquels le califat est demeuré pendant longtemps dans la tourmente. Je ne pense pas qu'un article aussi bien raisonné ait été présenté aux amis intéressés par l'histoire islamique. En vérité, plus l'on étudie les sources authentiques du temps d'Othman, plus cet ouvrage sera instructif et précieux. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a prononcé un discours sur le destin divin lors de la Jalsa Salana à la Mosquée Nour de Qadian en 1919. Cette question du décret divin est très difficile et très subtile et il a prononcé un discours pétri de savoir à cet égard. Hazrat Muslim Maud déclare « J'ai humblement imploré Dieu en ces termes. Ô mon Seigneur, s'il n'est pas approprié pour moi de parler sur ce sujet, eh bien inspire mon cœur pour que je ne le fasse pas. Mais Dieu m'a poussé à en faire mention. Bien que ce thème est difficile et nécessite beaucoup de travail et d'efforts pour le comprendre, mais si vous le comprenez, vous allez en tirer de grands profits. » Feu, le quatrième calife, rahmatullah alayhi, a évoqué ce discours sous différents angles et il a déclaré à ce propos. Le deuxième calife s'est adressé à un auditoire comprenant des gens éduqués et non éduqués, des gens intelligents et non. Pareille tâche n'était pas anodine. Sans nul doute, lui seul était à même de traiter ce sujet de manière aussi excellente. Quel était ce discours ? Demande le quatrième calife. Quel était ce discours ? Ce discours était un chef-d'œuvre de théologie. Après avoir expliqué l'importance de la question du décret et du destin, et des dires du Saint-Prophète Mohammed, peace be upon lui, le Muslim Maud a déclaré que la croyance dans le destin va de pair avec la croyance en l'existence de Dieu. Ensuite, il a expliqué divers aspects du destin en tirant ses déductions des dires du Saint-Prophète Mohammed, peace be upon lui. Et il a mentionné les errements de ceux qui n'ont pas compris la question du destin. Il a réfuté la croyance du Wahdatul Wujud en présentant des arguments très subtils en se basant sur 6 versets du Saint-Coran. Plus tard, il a réfuté l'autre extrémité du spectre et l'idée que Dieu ne pouvait rien faire et que tous les événements ont lieu selon un plan. La confusion entre la connaissance divine et la destinée divine a causé nombre d'errements et il a résolu ce problème par une excellente analyse. Ensuite, le quatrième calife a déclaré : ce discours traite de la question de la destinée divine sous tous ses aspects et présente des réponses à diverses objections anciennes et modernes. Il a également mentionné les sept niveaux spirituels eu égard au destin, permettant à l'homme de comprendre ce problème de la destinée divine et de respecter ses exigences. En tout cas, ce discours mérite d'être lu. Ceux qui posent des questions sur la destinée doivent certainement lire ce livre. Ensuite, il a aussi prodigué des conseils sur l'accord sur la Turquie et l'attitude future des musulmans. Une conférence sur ce sujet s'est tenue à Allahabad sous les auspices du comité sur le califat. Voici un aperçu de ce discours. Après la Première Guerre mondiale, le traité de paix présenté par les puissances alliées à l'Empire ottoman était extrêmement humiliant et entraînait le démantèlement complet de l'Empire ottoman. De plus, ses capacités navales, terrestres et aériennes étaient considérablement limitées et ils imposeraient d'autres restrictions très sévères sur la Turquie. À la lumière de ces circonstances, une conférence sous le califat devait se tenir à Allahabad les 1er et 2 juin 1920 pour examiner les termes de ce traité de paix avec l'Empire ottoman et pour réfléchir et proposer le prochain plan d'action des musulmans. Le célèbre chef de la Jamiatul Ulema Hind, Maulana Abdul Bari Farandi Mohidi, a invité le musulman Maoul à exprimer son point de vue lors de cette conférence dans une lettre datée du 30 mai 1920. Par conséquent, en une journée, le musulman Maoul a écrit un article sous le titre « L'accord sur la Turquie et l'attitude future des musulmans » et l'a imprimé le lendemain et l'a envoyé par Maulana Sayyid Mohamed Sarwar Shah, Hazrat Sayyid Waliullah Shah et Hazrat Chaudhry Zafullah Khan. Dans son article, le musulman Maoud a souligné les failles dans les termes du traité avec l'État turc et a offert quelques suggestions aux musulmans pour éviter ces effets néfastes. En présentant sa position d'une manière très rationnelle, Hazrat Musleh Maud a clairement indiqué que les propositions avancées, notamment l'émigration de l'Inde, un appel au djihad général et la non-coopération avec l'État britannique étaient irréalisables et préjudiciables aux musulmans. Hazrat Musleh Maud a avancé l'idée que les musulmans devaient s'unir et d'une seule voix, ils devaient faire comprendre aux alliés que les conditions de paix qu'ils avaient offertes à la Turquie vont à l'encontre des principes de base que les alliés eux-mêmes ont fixés. De plus, les musulmans voient ces termes comme motivés par la main cachée de l'hostilité chrétienne et comme un apaisement aux besoins des capitalistes. Par conséquent, les musulmans devraient exprimer leur désapprobation de ces termes et demandent qu'ils soient modifiés. Outre les propositions mentionnées dans son traité, Hazrat Musleh Maud a également recommandé que pour le succès et le progrès futur des musulmans et de l'islam, une organisation islamique internationale devait être créée. De nos jours, les musulmans affirment avoir formé cette organisation islamique, mais ils ne peuvent même pas prendre une décision collective. Ce fut Hazrat Musleh Maud qui en premier avait offert cette suggestion. Aujourd'hui encore, l'attitude de certaines puissances occidentales et leur traitement envers les États musulmans ressemble aux conditions que le Musleh Maud avait décrites dans son traité. Cette analyse extraordinaire de la situation et la proposition qu'il a présentée a été faite à une époque où il n'y avait même pas d'Internet. Et cela démontre clairement que le Musleh Maud profitait de l'aide et du soutien de Dieu. Et cela prouve aussi que Dieu lui avait accordé cette connaissance du monde et que Dieu avait rempli la promesse de lui accorder une grande intelligence. Un autre discours du Musleh Maud portait sur le thème des anges d'Allah. C'est un discours qu'il a prononcé le 28 décembre 1920 à la mosquée Baitun Nur. Ce discours s'est déroulé sur 2 jours. Le sujet des anges d'Allah fait partie des principes et des croyances fondamentales de l'islam. Et malgré le fait qu'il s'agit d'un sujet très complexe et subtil, Hazrat Muslim Maud l'a présenté d'une manière très simple et très claire. À la lumière du Saint-Coran, il a expliqué la réalité et le besoin des anges, et les différents types d'anges, leurs responsabilités, leurs services. Et il a aussi dissipé les allégations et les doutes sur le concept des anges à travers une argumentation très claire. Vers la fin de ce discours, Hazrat Muslim Maud a expliqué les 8 moyens par lesquels on peut établir une relation avec les anges et en tirer profit. Premièrement, il faudra partager la compagnie de ceux sur qui les anges descendent, c'est-à-dire s'asseoir en compagnie des justes et des prophètes. Deuxièmement, il faudra invoquer des salutations sur le saint prophète Mohammed pour profiter des anges. Troisièmement, il faudra prendre l'habitude de pardonner les défauts d'autrui et d'éviter de penser du mal des autres. Quatrièmement, il faudra s'occuper à louer et à glorifier Dieu. Cinquièmement, il faudra réciter le Saint-Coran attentivement. Sixièmement, il faudra lire les ouvrages de ceux sur qui les anges descendent. C'est-à-dire, de nos jours, il faudra lire les ouvrages du Messie promis alayhi salam. Septièmement, il faudra visiter les endroits que les anges visitent. Il faut visiter, en effet, des lieux saints. Huitièmement, il faudra établir une relation avec le califat. Hazrat Muslim Maud a exposé tous ces aspects. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a tenu une autre conférence sur la nécessité de la religion. Il y a répondu aux questions posées par certains étudiants à Lahore le 5 mars 1921. Le résumé de cette conférence est que Hazrat Muslim Maud s'était rendu à Lahore le 4 mars pour servir de témoin dans une affaire judiciaire. Il est resté à Lahore du 4 mars jusqu'au 7 mars. Le 5 mars, lors d'une audience avec Hazrat Muslim Maud, certains étudiants lui ont posé les 3 questions suivantes. Premièrement, que la religion n'est pas nécessaire et la religion n'accorde aucun avantage, mais si l'on veut tirer des avantages superficiels, il n'y a pas de mal à suivre une religion quelconque. Deuxièmement, d'aucuns parmi les adeptes des autres religions font aussi des prophéties. Par conséquent, les prophéties ne sont pas une distinction de l'islam. Troisièmement, l'expansion de la communauté du Messie promis alayhi salam n'est pas un signe de sa véracité, car Lénine en Russie a également connu de grands succès. Hazrat Muslim Maud a répondu de manière exhaustive à ces 3 questions. Il a expliqué que la nécessité de la religion est intimement liée à l'existence de Dieu. Ce traité est d'ailleurs publié sous le titre « La nécessité de la religion ». Il a déclaré que la nécessité de la religion est intimement liée à l'existence de Dieu. Si Dieu existe, tout naturellement, on aura besoin de religion. Et la preuve de l'existence de Dieu est sa communion avec ses serviteurs. Et de nos jours, les prophéties du Messie promis alayhi salam s'accomplissent continuellement et fournissent ainsi des preuves de l'existence de Dieu. En réponse à la 2e question, le Muslim Maud a déclaré que la différence fondamentale entre les prophéties des prophètes et celles des gens ordinaires est que ces derniers font des prophéties basées sur leurs connaissances et sont que des conjectures, tandis que les prophéties des prophètes viennent de la part de Dieu et sont contraires aux conditions prévalentes de l'époque. De plus, leurs prophéties contiennent de nombreuses facettes et sont de nature sublime et possède puissance et pouvoir. Ensuite, à la 3e question, il a déclaré que le succès accordé au Messie promis d'Islam avait été prédit par lui-même et ce succès fut accordé à conséquence. Ainsi donc, il serait incorrect de prétendre que puisque d'autres réussissent dans leur entreprise, le succès accordé au Messie promis d'Islam n'est pas un signe de sa véracité. En tout cas, c'était un discours très détaillé. En 1921, Hazrat Muslim Maud a prononcé un discours sur l'existence de Dieu. Ce discours est très long et s'étale sur 190 pages dans la version écrite. Hazrat Muslim Maud a prononcé ce discours très savant et complet, un discours qui était éclairé et rempli de points profonds et de sagesse. Dans son discours, Hazrat Muslim Maud a présenté 8 preuves de l'existence de Dieu et il a également répondu aux allégations qui sont soulevées contre chacune de ces preuves. Il a également prouvé l'existence de Dieu à travers ses attributs et il a également expliqué les différents types d'attributs. Il a fourni des preuves à cet égard et il a également expliqué les différents types d'attributs d'Allah. En outre, il a contrasté les enseignements de l'islam avec les opinions des Européens, des Zoroastriens, des Hindous, des Aryas sur leurs concepts respectifs de Dieu. De plus, Hazrat Muslim Maud a expliqué le concept d'association des partenaires avec Allah et ses différentes formes. Et il a aussi présenté des moyens pour éliminer le polythéisme. Le Muslim Maud a également expliqué comment on peut être témoin de la personne de Dieu et les différentes étapes par rapport à cela et les bénédictions qu'ils contiennent et comment y parvenir. Ensuite, en 1921, Hazrat Muslim Maud a écrit un livre intitulé « Un cadeau à son Altesse royale, le prince de Galles ». C'est un ouvrage qu'il a écrit suite à la visite en Inde du prince de Galles. Voici le résumé de ce livre. Le 1er décembre 1921, le prince de Galles, qui était l'héritier officiel du trône de l'Empire britannique, s'est rendu en Inde pour une visite officielle. Il s'agit du même prince de Galles, également connu sous le nom d'Édouard VIII, et qui a ensuite abdiqué le trône en 1936 en raison de ses différences avec l'Église anglicane. Lors de sa visite, Hazrat Muslim Maud a écrit un livre intitulé « Un cadeau à son Altesse royale, le prince de Galles ». Et sur les conseils de Hazrat Muslim Maud, 3208 membres de la communauté Ahmadiyya ont fait un don d'une anna, chacun afin d'aider à la publication de ce livre. Et par l'intermédiaire du gouvernement du Punjab, ce livre a été présenté au prince de Galles par une délégation de la communauté musulmane Ahmadiyya le 27 février 1922. Comme un cadeau unique et spécial. Dans ce livre très bref et savant, Hazrat Muslim Maud a exprimé sa loyauté envers l'État britannique et a fourni une brève introduction au Messie premier d'Islam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya. Il a également expliqué ses enseignements ainsi que l'histoire et les objectifs de la communauté musulmane Ahmadiyya. Ensuite, conformément à la pratique du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U., Hazrat Muslim Maud a présenté au prince de Galles le message de l'islam d'une manière extrêmement convaincante et l'a invité à l'islam. Le prince de Galles a accepté ce cadeau du Muslim Maud et il a envoyé un message de gratitude par l'intermédiaire de son secrétaire en chef. En ce qui concerne ses sentiments à ce sujet, le prince de Galles, qui devint plus tard Édouard VIII, comme je l'ai dit, avait par la suite abdiqué le trône en 1936 en raison d'une dispute avec l'Église anglicane. En tout cas, il a apprécié ce cadeau et il l'a honoré. Non seulement a-t-il envoyé une note de remerciement par l'intermédiaire de son secrétaire en chef, mais lors de son voyage de Lahore à Jammu en mars 1922, il l'a lu dans son intégralité et il en était très heureux. Selon certains rapports, alors qu'il lisait le livre, à certains moments, son visage brillait. De même, son aide de camp a également dit que lorsque le prince de Galles lisait le livre, parfois il se mettait debout tout d'un coup. Finalement, après quelque temps, il a déclaré ouvertement sa dissociation du christianisme. Le 24 avril 1922, le journal Zulfikar a publié une critique de ce livre en affirmant que « Nous ne pouvons qu'apprécier les efforts déployés par le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya pour diffuser le message de l'islam. Une grande partie du cadeau au prince de Galles concerne la diffusion du message de l'islam et une exposition si magnifique que les non-Ahmadis en seraient envieux. Il ne fait aucun doute que lorsque nous arrivons au bureau de presse, nous devons laisser nos préjugés derrière nous. Et en voyant ce cadeau, nous ne pouvons qu'exprimer notre approbation sans réserve. L'auteur estimé de ce cadeau a suivi à la lettre la sunna du saint prophète, paix soit sur lui, en invitant ouvertement et courageusement l'héritier du trône britannique, Ali Salam. Une autre communauté, une autre personne ou un autre journal aurait attaqué ce cadeau par inimitié et par jalousie. C'est là une autre question. Mais nous n'avons trouvé aucun exemple de flatterie dans ce cadeau. Certes, dans certains endroits, l'auteur a mentionné brièvement la vie de feu Muzahullah Mahmoud, du début à la fin. Cependant, ces exemples visent à favoriser la paix et à exprimer sa loyauté envers l'État britannique. Il est clair que Dieu ne se lie pas d'amitié avec ces groupes qui sont mal intentionnés et qui provoquent le désordre. Il les anéantit au contraire. De même, un journal soutenu par l'État du Punjab appelé Civil and Military Gazette a écrit dans son édition du 18 avril 1922 « Il faut admettre que Hazrat Mirza Bashir Uddin Mahmud Ahmad a présenté ses arguments d'une manière excellente et avec une grande compétence et connaissance. Malgré le fait que le but sous-jacent était la propagation de son message, que le prince de Galles devienne un Ahmadi ou non, il ne fait aucun doute qu'aux yeux de ceux qui s'intéressent à la religion, en particulier aux différentes religions de l'Inde et de l'Angleterre, cela ne diminue en rien la valeur et le plaisir que l'on tire de cet ouvrage. Cet ouvrage a également eu un grand impact à l'étranger. Un professeur de Vienne, la capitale de l'Autriche, expert en trois langues, a exprimé son profond bonheur en lisant cet ouvrage. Il a déploré le fait qu'il était âgé, sinon il aurait parcouru le monde pour propager ce message. Mufti Mohammad Sadiq des États-Unis a écrit que cela a eu un grand impact à travers tout le continent américain. Il semblait que ce livre a été écrit en gardant l'esprit et les normes intellectuelles de l'Amérique. Et cela a également été reconnu en Afrique. Un journaliste du journal Leader de Nairobi écrit ceci. Bien que je ne suis pas chrétien, mais je suis né dans une famille chrétienne et je comprends leur littérature. Cependant, la quantité de connaissances et la joie que j'en ai tirées ne peuvent être exprimées. Bien que l'auteur de ce livre soit un musulman, il est fort probable qu'il ait passé des années parmi les chrétiens et qu'il a soigneusement étudié leur littérature. Sinon, il serait très difficile de présenter pareil point sur le christianisme et cela aussi ouvertement. En ce jour, je n'ai lu aucun livre écrit sur la base de la religion, mais qui soit exempt de tout préjugé. C'est le premier livre de cette stature. Le discours intitulé « L'Ahmadiyya ou l'Islam véritable » a été prononcé en 1924. Le résumé de cet ouvrage a été présenté lors de la conférence de Wembley. Le livre lui-même est assez long et comprend environ 250 pages. La conférence de Wembley a eu lieu en 1924 et les savants renommés des religions du monde entier ont été invités à donner des conférences sur les qualités de leurs religions respectives. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu a également été invité à assister à cette conférence. Et pour les besoins de cette conférence, Hazrat Musleh Maud a écrit cet ouvrage, L'Ahmadiyya ou l'Islam véritable. Il a écrit cet ouvrage à partir du 24 mai jusqu'au 6 juin et il a complété cet ouvrage en 2 semaines. Le résumé de cet ouvrage a été présenté par Chaudhry Zafar Khan en présence du Musleh Maud. Ce discours était si unique que d'éminents dirigeants chrétiens ont avoué que sans aucun doute les idées présentées dans ce traité était tout à fait unique vu sa structure, ses preuves et sa beauté. Par conséquent, à travers ce discours, Dieu a permis de présenter le message de l'Ahmadiyya, c'est-à-dire l'islam véritable, à des leaders renommés d'autres religions qui n'avaient d'autre choix que d'attester la véracité de l'islam. Dans ce livre, Hazrat Musleh Maud a mis en lumière les différents aspects des beaux enseignements de l'islam d'une manière excellente. Premièrement, il a prouvé à travers les versets de la sourate As-Saffat que la tenue des conférences religieuses comme celle-ci avait été prédite 1300 ans de cela dans le Saint-Coran. Par la suite, il a introduit la communauté Ahmadiyya et à l'appui d'arguments, il a démontré que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Ensuite, il a mentionné les 4 objectifs de la religion. Et dans cette perspective, il a d'abord mentionné en détail le concept islamique de Dieu. Il a clarifié la nature de la relation entre l'homme et son créateur, le créateur présenté en islam, ainsi que les responsabilités qui ont été imposées à l'homme de la part de Dieu. Le musulman Maoud a également dissipé le soupçon que l'islam interdit le recours aux différents moyens, les moyens qui sont à notre disposition, et de tout laisser entre les mains de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est même pas nécessaire de faire des efforts. Il s'agit là d'une accusation portée contre les musulmans. Le musulman Maoud a déclaré que des versets coraniques démontrent que l'islam n'a jamais enseigné pareil concept. Au contraire, l'islam enjoint d'avoir pleinement recours aux différents moyens que nous avons à notre disposition et de placer ensuite notre confiance en Dieu. La confiance en Dieu ne signifie pas l'abandon des recours aux différents moyens mondains, mais signifie la croyance en un Dieu vivant. Le musulman Maoud a mis l'emphase sur le fait que l'islam est la seule religion qui permet à l'homme de rencontrer Dieu, car l'islam revendique que celui qui met en application ses préceptes et qui désire ardemment rencontrer Dieu finira certainement par le rencontrer. Le musulman Maoud a déclaré ensuite que seul l'islam peut dissiper le doute sur l'existence de Dieu. En effet, en suivant les enseignements de l'islam, naissent des personnes qui sont les manifestations des attributs de Dieu et qui reflètent d'abord en eux-mêmes ces attributs et qui ensuite montrent les signes aux autres. Ils démontrent ainsi la connaissance parfaite de Dieu. À l'époque, afin de faire connaître son existence aux gens de ce monde et afin qu'ils puissent être préservés d'une vie emplie de doutes, Dieu a suscité le Messie premier à l'Islam. Ensuite, le musulman Maoud a parlé en détail des différents aspects de la moralité et il a prouvé que l'enseignement moral de l'islam est le plus parfait et qu'aucune autre religion ne peut l'égaler. Ensuite, il s'est appesanti sur les principes de l'acquisition des valeurs morales et les moyens pour éviter le mal et les enseignements de l'islam pour réformer la morale. Par la suite, il a expliqué les enseignements de l'islam sur la civilité, et cela d'une manière très subtile. Il a expliqué la différence entre la morale et la civilité. Puis il a mis en lumière les principes sur lesquels devaient se fonder les relations entre les individus de la société humaine. Ensuite, il a expliqué les principes de la citoyenneté et les devoirs et les droits de l'État et des citoyens. Ensuite, il a expliqué la nature des relations entre les différents États et il a présenté les principes d'or du Saint-Coran permettant de résoudre les différends entre différentes nations. Il a déclaré que si la société des nations est fondée sur ces principes, eh bien, elle réussira. Mais comme elle ne l'a pas été, elle a échoué. Et si l'ONU ne suit pas ces principes, elle finira également par échouer. À la fin du livre, le musulman Maoud a mis l'emphase sur la vie dans l'au-delà. Il a expliqué la réalité des récompenses qui seront obtenues et des punitions qui seront infligées dans le monde à venir. Dans cet ouvrage, le musulman Maoud n'a pas uniquement mentionné les enseignements du Messie premier de l'Islam, mais il a également donné des exemples de ceux qui ont suivi ses préceptes et qui ensuite ont apporté une réforme dans leur vie et quel a été l'impact des enseignements du Messie premier de l'Islam sur ces personnes. Et il a déclaré que certaines d'entre elles ont préféré sacrifier leur vie au lieu d'abandonner ces préceptes du Messie premier al-Islam. À la fin, le musulman Maoud a invité tous les peuples du monde à accepter l'Ahmadiyya et il a donné la bonne nouvelle que le moment est venu de mettre fin à ces souffrances et que si le monde se réunit sur la main du messager de cette époque, eh bien le jour de la victoire ne sera pas très loin. À la fin du discours, le président de la session a déclaré « Je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose. La qualité du discours était évidente. Je tiens à remercier Hazrat Khalifat al-Masih en mon nom et au nom de l'Assemblée pour ce discours important dont la structure était excellente et pour les bonnes idées et le haut niveau de raisonnement qu'il a présenté. Les visages des gens de l'Assemblée témoignent que ce que j'ai dit est la vérité et je suis sûr qu'ils reconnaissent que j'ai raison de les remercier en leur nom également. Un homme s'était présenté au calife et il a déclaré : J'ai travaillé en Inde pendant 30 ans, j'ai étudié l'État et les arguments des musulmans. J'ai servi en Inde comme missionnaire, mais la beauté, la clarté et l'élégance avec lesquelles vous avez présenté ce discours d'aujourd'hui sont telles que je n'ai jamais entendu de choses pareilles dans le passé. Les idées, la structure et l'argumentation de ce discours m'ont profondément marqué et je vous en félicite. Une autre personne a dit au calife : Je suis venu de la France afin d'écouter ce discours. Dans le passé, je préférais l'islam au christianisme et je préférais le bouddhisme à l'islam. Mais maintenant que j'ai écouté votre discours et que j'ai également écouté le discours sur le bouddhisme, je reconnais que l'islam est en effet une religion supérieure. Aucune autre religion ne peut égaler la qualité et la manière dont vous avez présenté l'islam. Cela a eu un effet profond sur mon cœur. D'autres personnes ont présenté leur réaction. Il y a Mme Sharpels, qui était la secrétaire de cette conférence. Elle a dit à Chaudhry Zafullah Khan Saheb : Je vous félicite et les gens vous sont aussi très reconnaissants. Elle a ajouté : Les hommes et les femmes viennent à moi et me complimentent beaucoup pour ce discours. Un Allemand qui est professeur et qui était sur le chemin retour s'est avancé vers le calife afin de le féliciter et il lui a dit : De grands dignitaires anglais étaient assis à mes côtés et j'ai vu que certains d'entre eux se frappaient les cuisses et disaient : Ce sont là des idées très rares, on ne peut pas entendre de telles idées tous les jours. Le même professeur allemand a déclaré qu'à certains moments, certains s'exclamaient : Quel principe merveilleux et véridique. Ce même professeur allemand a déclaré que cette opportunité était un tournant pour les Ahmadis, c'est-à-dire une opportunité pour accomplir de grands progrès. Et cette réussite est telle que si vous aviez dépensé des milliers de livres sterling, vous n'auriez pas pu obtenir une telle renommée et une telle réussite que vous avez pu obtenir grâce à cette conférence. Une femme Bahaï a écouté le discours. Ensuite, elle a marché à nos côtés jusqu'à la maison. Elle disait : J'avais des croyances Bahaï, mais maintenant, après avoir écouté la conférence d'aujourd'hui, j'ai changé de point de vue. Je souhaite écouter davantage vos discours. Veuillez me faire savoir quand et où vous allez présenter de tels discours. Je viendrai certainement les écouter. Une autre femme a suivi le calife et l'a invité à prendre le thé chez elle. Une autre personne a déclaré que le sujet de ce discours était plus beau que le sujet de l'amour pour la batterie. C'était là quelques aperçus des perles de connaissances et de savoir que le musulman Maoud possédait entre l'âge de 18 ans et de 35 ans. Comme je l'avais dit auparavant, malgré le fait qu'il n'avait reçu aucune éducation formelle mondaine dès son jeune âge, le musulman Maoud possédait ses grandes connaissances séculières et spirituelles. C'est aussi un signe de la véracité du Messie premier l'Islam et de l'authenticité de la prophétie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce que j'ai présenté s'étale sur une période de 17 ans. Et certains de ces récits datent d'avant son califat, d'autres d'après. Je n'ai même pas pu présenter un centième de ce qu'il a dit au cours de ses 17 ans. J'avais parlé d'un cinquantième, mais je n'ai même pas pu présenter un centième. Je pensais que je pourrais introduire plusieurs ouvrages du Musulman Maoud. Le Musulman Maoud avait également fait de nombreux autres discours et il a écrit de nombreuses exégèses qui comportent de très nombreux points. Il s'agit là d'un torrent de savoir. Il a également présenté des directives au monde dans différentes assemblées. Une grande partie de ces trésors ont été publiés et les membres de la communauté doivent les lire. Qu'Allah le Très-Haut exalte le rang du Musulman Maoud. Vous devez également prier pour la situation du Pakistan. Qu'Allah permette aux Ahmadis du Pakistan de vivre là-bas en paix, qu'ils puissent vivre dans la sérénité et la tranquillité. Et qu'Allah, de par sa grâce et ses faveurs, réduise à néant les attaques et les complots des opposants de l'Ahmadiyya.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر